Galates 5, verset 2, je lis, voici moi Paulus, je vous dis, en ce que si le cas échéant que vous soyez circoncis, un oint, pas un ne vous profitera. Donc il dit, si le cas échéant que vous soyez circoncis, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Galates. Les Galates, c'est un ensemble de personnes. Et donc ces Galates, apparemment, ils sont passés par un peu de paganisme. Quand il met, au verset 3 du chapitre 4, « Lorsque nous étions infantiles, sous les éléments du monde, nous étions, ayant été esclavagés. » Sous les éléments du monde qui, apparemment, sont l'air, le feu, l'eau, la terre, et auxquels sont liés, apparemment, une certaine forme d'idolâtrie, selon le verset 9, par exemple, du chapitre 4, selon Aristide d'Athènes, dans son Apologie à Adrien, puis aussi selon le verset 10, qui dit, voilà, journée, vous épiez, moi et moi. Donc voilà un peu pour les Galates. Donc apparemment, ils sont passés par un peu de paganisme, une espèce d'idolâtrie un peu païenne, finalement. Et finalement, du coup, le point ici, c'est que justement, ils ont cette volonté, après avoir connu le vrai évangile, de revenir finalement dans cet esclavage qui, du coup... en quoi est-ce un esclavage? Parce qu'il prêche un faux évangile. Donc c'est vraiment du paganisme, quelque chose de faux en fait, une fausse religion si je puis dire. Et du coup, Paul s'adresse à ces gens-là et il dit, si le cas échéant que vous soyez circoncis, s'il s'avère que vous soyez circoncis, vous, Galates, eh bien, sachez que un ou pas un ne vous profitera. Alors, pourquoi il dit, si le cas échéant que vous soyez circoncis, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, du coup, je vais donner mon interprétation. C'est quoi? C'est que, il est en train de dire, si vous êtes d'anciens juifs, en fait. Si vous êtes d'anciens juifs, qui, du coup, aujourd'hui, vous se retrouve à être dans du paganisme, alors que, en plus, moi, Paul, je vous ai prêché le vrai évangile, donc c'est-à-dire que vous seriez passé par Moïse, par le vrai évangile, donc par la loi de Dieu, par les commandements de Dieu, plus par le vrai évangile, donc vous aurez normalement eu le bon package. Donc si vous avez eu le bon package, et que maintenant, vous rejetez finalement tout ça, qu'est-ce qu'un homme de Dieu, on viendrait ajouter à ce package-là finalement? Puisque l'évangile, vous l'avez déjà entendu, la loi, vous en avez déjà pris connaissance, les commandements, pareil, logiquement. Donc, qu'est-ce qu'un oint vous apporterait de nouveau, finalement, là-dedans? En quoi vous serait-il, finalement, profitable? Puisque l'évangile, vous l'avez déjà connu, la loi, c'est pareil, etc. Parce que finalement, vous avez fait votre choix, n'est-ce pas? Donc, je viens de dire ça me fait penser un peu à Luc 16, avec le jeune homme riche et Lazare, où le jeune homme riche est dans les tourments, dans les flammes, et il demande à Lazare d'aller dire à ses frères, frères de l'homme riche, finalement de se repentir, n'est-ce pas? Pour que ses frères n'aillent pas là où ce riche est. Et en fait, il n'a pas dit ça à Lazare, il a dit ça à Abraham, pour qu'Abraham demande à Lazare d'y aller, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que lui dit Abraham? Qu'est-ce que lui répond Abraham au riche? Verset 29, donc Luc 16, 29 dans Martin. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais le riche dit, donc verset 30, mais il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressusciterait. Donc s'ils ont jeté la loi, s'ils ont jeté ce packaging de la loi, des prophètes, de ce qui vient de Dieu, même si un oint fait des miracles devant eux, ressusciterait, est-ce qu'ils en seraient pour autant persuadés? Est-ce qu'ils changeraient comme ça d'un claquement d'œil, d'un claquement de doigt? Donc ce verset 31, il est super intéressant, je trouve. Et il m'a fait penser, du coup, à... Enfin, ce, ce, Ce verset donc de Galates, chapitre 5, verset 2, m'a fait penser justement à ce passage de Luc, Luc 16, verset 29 à 31. En mode, voilà, s'ils ont jeté le packaging de la loi et de l'évangile, alors que c'est, en plus, c'est Paul lui-même qui leur a annoncé l'évangile. Alors, s'ils rejettent ça, qu'est-ce qu'un homme de Dieu pourra faire pour eux, en fait? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place des autres. On pourrait peut-être aimer faire des choses à la place des autres. Oh, si j'avais été mon frère selon la chair, j'aurais accepté Christ, etc. Ouais, mais tu n'es pas ton frère selon la chair. Donc tu ne peux pas faire pour lui ce qui serait le mieux à faire pour lui finalement, n'est-ce pas? Tu ne peux pas, entre guillemets, l'aider par rapport à ça. Parce que c'est à lui de faire, c'est à lui d'agir. Donc tu n'as rien à faire toi par rapport à ça. C'est à lui d'accepter. Toi, tout ce que tu as à faire, c'était juste lui donner l'évangile, lui présenter l'évangile, lui faire comprendre les choses. Et après, c'est à lui que revient la décision. C'est à lui de choisir. C'est pas, tu peux pas choisir pour lui. Mais une fois que tu lui as donné toutes les infos, bah, que peux-tu faire de plus finalement? Donc en soi, l'homme de Dieu, loin, il est profitable à l'autre qui n'est pas à son niveau, entre guillemets, notamment par les informations qu'il va pouvoir lui transmettre. Mais après, c'est à celui qui écoute les informations de les éprouver et de les mettre en pratique. L'homme de Dieu qui les a données, il ne peut pas mettre en pratique à la place de l'autre qui a écouté. Mais du coup, au final, c'est quand même très fort de dire un ouin par un ne vous profitera, je trouve. Mais finalement, je trouve ça très fort, comme ce passage dans Luc 16, 29 à 31. C'est quand même très fort, je trouve, ce verset 31. Et donc, ce que je comprends avec ce verset 2, c'est en gros, maintenant que vous avez tout reçu, l'évangile, vous qui avez été circoncis, la circoncision... donc sous-entendu la loi de Moïse, vous qui avez tout reçu, maintenant, si vous voulez être, ne plus être dans l'esclavage, si vous voulez faire la volonté de Dieu, ça ne dépend plus que de vous, en fait. Pas d'un homme de Dieu ou d'un ouin, parce que vous avez déjà reçu les choses. Donc maintenant, c'est à vous de faire les bons choix. Comme il dit, choisis la vie, choisis la mort. Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. C'est à vous maintenant de faire le choix. Nous, on vous a déjà tout donné, grosso modo. Vous avez déjà tout entendu, si on peut dire. Et quand on regarde le bailli pour la définition du mot donc, qui a été traduit ici par profitera, profiter, donc ophéléo, il met en premier secourir. Ce qui, effectivement, je trouve, va bien, va mieux même dans le contexte que profiter. Un mois par un ne vous secourra. Je trouve que ça va très bien avec ce qu'on a dit. Je trouve que ça va encore mieux que profiter. Donc en vérité, je pense que je vais même modifier la traduction. Je vais plus mettre ne vous profitera, mais plutôt ne vous secourra. Parce que c'est tout à fait légitime au vu du dictionnaire du bailli et au vu du contexte, en fait, du sens. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur choix. Après, ça restera... peut-être à éprouver encore par rapport à l'uniformité de la traduction, par rapport aux autres textes. Mais je pense que je vais faire ça pour l'instant. Donc le sens de ce verset, si je peux dire, il est hyper contextualisé. Ça s'adresse aux Galates, et en plus ça s'adresse à ceux des Galates qui sont circoncis. Donc ça ne s'adresse pas à tous les circoncis. Ça ne s'adresse pas à tous les Galates non plus. Ça s'adresse à certains Galates. Donc, c'est du contexte dans du contexte, grosso modo, ce verset. Donc, on ne peut pas dire de par ce verset, « Oh, un ouin ne va pas secourir les Galates, de manière générale. » Parce que ce n'est pas ce que dit ce verset. Ou alors, on ne peut pas dire, « Oh, un ouin ne va pas secourir une personne circoncise de manière générale. Parce que c'est pas ce que dit ce verset. Ce verset parle des Galates qui sont circoncis. Vous, les Galates à qui, et c'est pas n'importe quel Galate, c'est les Galates à qui Paul s'adresse dans cette lettre. Vous, les Galates à qui Paul s'adresse dans cette lettre, qui sont circoncis, eh bien, un ouin ne vous secourra pas. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, le sens de ce verset est vraiment, si je puis dire, hyper contextualisé. Et donc, on peut pas, il faut pas faire, enfin, certaines personnes pourraient peut-être vouloir faire, dire n'importe quoi à ce verset, justement, en ne considérant pas cette hyper contextualisation, finalement. Alors que pourtant, on voit bien que dans ce verset, on a bien trois fois le mot vous dans cette traduction. On a par exemple, voici, moi, Paulus, je vous dis en ce que si le cachant que vous soyez circoncis, un ouin, pas un, ne vous secourra. Et donc je pense que ce verset, il a dû mettre la pression justement aux Galates à qui était adressée cette lettre et qui était en plus circoncis. En mode, oh punaise, personne pourrait me sortir de la situation dans laquelle je suis. En mode, vraiment, il n'y a plus que moi, quoi, grosso modo. En mode, tout dépend de moi, etc. Et donc, il doit y avoir une certaine pression, je pense. Je pense que c'est un verset vraiment qui met quand même la pression, justement, à ceux de ces Galates qui sont circoncis. Ensuite, verset 3. « Je rends témoignage, je lis cependant de nouveau à tout être humain étant circoncis, en ce qu'il est débiteur de faire la loi tout entière. » Alors, à mon souvenir, il n'a pas dit jusqu'alors, Paul, que tout être humain étant circoncis et à être débiteur de faire la loi tout entière, n'est-ce pas ? Alors, probablement qu'il a dû le dire oralement ou ailleurs, voilà. Mais dans cet épître Galate, je n'ai pas le souvenir, d'accord, que jusqu'alors, on ait trouvé un tel dire. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça par rapport au « de nouveau ». Voilà, que du coup, je ne saurais expliquer ainsi. Alors, notre manière d'expliquer ce « de nouveau », ce serait non pas en ce qu'il dit, en ce en quoi il rend témoignage, mais au fait qu'encore, il rend témoignage. Une nouvelle fois, il rend témoignage. Sous-entendu qu'au verset 2, il dit « Voici, moi, Paulus, je vous dis. » Sous-entendu, c'est moi qui parle. Et donc, le « de nouveau » ici du verset 3, on pourrait le rattacher à justement ce verset 2, où c'est Paul qui parle. Comme du coup, au verset 3, il dit « Je rends témoignage ». Voilà une manière de comprendre ce « de nouveau ». Et j'ai envie, finalement, de le comprendre ainsi, car sinon, si j'aurais à rattacher ce « de nouveau » à tout être humain étant circonscient, ce qui est débiteur de faire la loi tout entière, je ne vois pas comment le faire, je ne saurais le faire bibliquement. Donc, ce « de nouveau », j'expliquerai ainsi, je dis. Maintenant, il dit « Je rends témoignage » de quoi, du coup ? De ce que tout être humain étant circoncis, ce qui est débiteur de faire la loi tout entière. Sous-entendu que, voilà, tout humain circoncis. Alors, c'est intéressant, cette parole, parce que il ne dit pas les fils d'Israël. Il ne dit pas les Juifs. Il dit ceux qui sont circoncis. Donc, aujourd'hui, ça ferait quoi ? On aurait les musulmans, on aurait les athées qui sont circoncis, alors, musulmans circoncis. Hein. Et puis, les juifs, bien sûr. Mais là, Paul ne dit pas seulement les juifs, quoi. Il dit vraiment, il généralise à la circoncision. En mode, la circoncision, ça semblerait que ce soit vraiment quelque chose de rattaché à la loi de Dieu, à la Torah, en fait. Dans le sens qu'une circoncision sans Torah, apparemment, d'après ce verset 3, n'aurait pas de sens. Parce que tout humain circoncis est débiteur, finalement, de faire la Torah. Donc, qu'il soit athée, qu'il soit musulman, etc. Selon, apparemment, ce verset 3, selon l'interprétation, la lecture qu'on peut en avoir et que je partage ici. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse qui est assez forte, je trouve, finalement, qui en conclusion, je dirais, comme j'ai pu le dire légèrement, enfin légèrement, c'est pas le mot, mais rapidement, il y a quelques instants, que finalement, cette circoncision, la circoncision, apparemment, ne serait quelque chose que de biblique, en fait, de la Bible, en fait. Et toute circoncision qui serait détachée de la Bible c'est-à-dire finalement de l'alliance faite avec Abraham, ne serait que tromperie, ne serait que qu'erreur en fait. C'est une manière de dire finalement que la circoncision, le fait de circoncire, c'est quelque chose qui appartient à la Bible et qui n'appartient à rien d'autre finalement. Et que tous ceux qui prennent cette circoncision-là prennent quelque chose qui appartient à la Bible. Et finalement, les musulmans, c'est un peu ce qu'ils font. Enfin, c'est ce qu'ils font, ils prennent la circoncision. Mais quand on réfléchit, ils ne prennent pas que la circoncision. Ils vont aussi prendre Abraham, ils vont aussi prendre Moïse, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jésus? Par exemple, ils vont le déformer, n'est-ce pas? Ils vont prendre un autre Jésus, mais ils vont garder le titre, l'apparence, d'une certaine manière. Donc les musulmans, c'est un peu leur truc, de prendre ce qui est dans la Bible et de dire c'est à eux. De faire leur sauce de la Bible. Ils font leur propre sauce, ils font leur propre course, entre guillemets, si je puis dire. Mais la circoncision, c'est quand même assez terrible parce que c'est vraiment un acte inscrit dans la chair. Alors que bon, le Coran, c'est quand même terrible aussi, hein, bien sûr, je trouve. Mais disons que c'est pas, le Coran n'est pas gravé dans la chair de la personne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si un jour elle veut arrêter d'être musulmane, bon, bah, c'est plus simple que si ça avait été gravé dans sa chair. Mais là, en prenant la circoncision, ils gravent finalement quelque chose dans leur chair. Ce qui est assez dur, je trouve. Ils gravent une erreur, en fait, dans leur chair. Ce qui est dur, je trouve. Et les athées, eux, ils gravent finalement leur manque de connaissance par rapport à Dieu, en fait, et de manière générale, finalement. Ce qui est aussi dur, mais je dirais plus stupide, finalement, n'est-ce pas? Mais du coup, on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'un humain qui n'est pas fils d'Israël et qu'on aurait circoncis aurait à faire la loi tout entière s'il n'est pas fils d'Israël, finalement? S'il n'est pas fils d'Israël, mais que par ailleurs, il a été circoncis pour... de l'hygiène, par exemple. Comment pourrait-il, finalement, devenir débiteur de faire la loi tout entière? Selon quelle loi? Selon quelle règle? Selon quel principe? Selon quelle écriture? C'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Eh bien, en fait, ma compréhension... Alors, peut-être que déjà, certains pourraient dire, comme j'ai pu le penser, hein, n'est-ce pas, que à l'époque de Paul, personne d'autre ne se circoncisait sinon les juifs, quoi. Et que par conséquent, en disant un humain circoncis, on parlait forcément des juifs. Sauf qu'apparemment, il semblerait qu'il n'y eut pas que des juifs qui se circoncisaient. Dans le sens que les Aztèques, par exemple, ou Mayas d'Amérique, se circoncisait, par exemple, n'est-ce pas? Apparemment, de ce que j'ai compris. Et puis ailleurs encore dans le monde. Ok? Donc, que dirons-nous? Eh bien, je dirais la même chose que je dirais aujourd'hui. Enfin, j'expliquerai la chose de la même manière que ce que je peux dire aujourd'hui. Enfin, ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Que, en fait, aujourd'hui, apparemment, tout le monde... Tous les humains de cette terre, apparemment, descendent des fils d'Israël. Dans le sens qu'ils ont au moins une partie de leur être qui descend d'un fils d'Israël. Et à cause de ça, sont finalement, n'est-ce pas, descendants d'Israël. Et par conséquent, concernés, ils sont par la Torah, par Abraham. Et donc, concerné par la circoncision abrahamique, si je puis dire. Et devrait, finalement, au regard de cette alliance abrahamique, être circoncis. Et être circoncis par rapport pour, finalement, cette alliance. Et donc je pense que cette réalité-là, de ce que chaque humain sur Terre aujourd'hui serait concerné, je pense que c'était la même à l'époque de Paul, finalement. Je pense que mathématiquement, on peut voir, on peut vérifier qu'à l'époque de Paul aussi, et déjà finalement, chaque humain sur terre était fils d'Israël, n'est-ce pas? Maintenant la question, ce qui peut d'ailleurs finalement expliquer pourquoi on retrouve la circoncision chez les Aztèques ou les Mayas d'Amérique. Parce que du coup, en étant fils d'Israël, bah, Ils auraient pu hériter aussi de cette pratique-là, de père en fils, tout simplement. Et toute cette réalité, le fait que, le fait qu'on puisse retrouver la circoncision, qu'on ait pu retrouver la circoncision dans d'autres peuples qu'Israël, à l'époque de Paul, par exemple, n'est-ce pas, ne signifie pas pour autant que la circoncision serait quelque chose qui ne serait pas que lié à la Bible. Selon l'explication que j'ai pu donner il y a quelques instants en disant, par exemple, voilà, les Aztèques, à ma compréhension, à l'époque de Paul, ils étaient déjà fils d'Israël et par conséquent pouvaient avoir avec eux un héritage justement d'Israël qui pourrait être, par exemple, la circoncision. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le lien entre la circoncision d'Abraham, la circoncision d'Abraham, cette alliance en fait, et le fait d'être débiteur de faire toute la loi tout entière, de faire toute la Torah. Parce qu'à l'époque d'Abraham, la Torah écrite avait-elle été donnée ? Non, n'est-ce pas ? En tout cas, pas comme on l'a. Pas comme on nous en a parlé, n'est-ce pas ? Peut-être qu'Abraham avait déjà la Torah. Mais c'est quelque chose de qui peut aujourd'hui nous être un peu mystère, en tout cas plus mystérieux que la Torah qui a été donnée à Moïse. Donc la question, je redis, finalement maintenant, c'est quoi ? C'est pourquoi quelqu'un de circoncis à cause de l'alliance d'Abraham serait débiteur de faire la loi tout entière ? Eh bien, en vérité, je pense que j'ai ma réponse. C'est que pourquoi il se fait circoncire ? Parce qu'il est fils d'Israël. Alors, vous allez peut-être me dire, mais hey, qu'est-ce que... Et alors, en fait ? Eh bien, un fils d'Israël, c'est qui ? C'est un fils d'Abraham. Et donc, si c'est un fils d'Abraham, c'est un homme qui est concerné par la circoncision et qui doit se circoncire. Maintenant, s'il est fils d'Israël, il doit aussi garder les commandements relatifs au fils d'Israël, commandement qu'on retrouve notamment dans la Torah, dans la loi. Donc aujourd'hui, un homme qui est fils d'Israël, il doit se circoncire et garder la loi. Et il ne peut pas faire l'un ou l'autre, mais il doit faire l'un et l'autre. Et le fait qu'il se circoncise, finalement, atteste le fait qu'il soit fils d'Israël, n'est-ce pas ? Et donc atteste le fait qu'il est aussi à garder la loi tout entière qui est arrivée après. Enfin, qui arrivait par Moïse après la circoncision. Maintenant, on pourrait se poser la question, ok, mais pourquoi est-ce qu'il devrait faire la loi tout entière et pas seulement la loi relative aux fils d'Israël et la loi qui serait éternelle, entre guillemets, qui irait de génération en génération ? Parce que finalement, lui, c'est pas ça qu'il est concerné, c'est pas la loi qui a été donnée à Moïse et qui concerne les descendants, d'accord, des fils d'Israël à l'époque de Moïse. Et une loi qui va de génération en génération. Et bien, par ça, je répondrai en disant que il s'agirait, à ma connaissance, à ma compréhension, d'une expression, d'un sous-entendu. Parce que celui qui est circoncis, il ne peut pas mettre en pratique des choses qui ne sont demandées qu'aux femmes, n'est-ce pas ? Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est peut-être pas fils de Lévi, n'est-ce pas, par exemple. Ou alors grand sacrificateur, ou bien juge, etc., etc. Donc, il y a des parties de la loi qui concernent tel type de personne. Donc il ne peut pas faire, à ma connaissance, la loi tout entière, littéralement. Et du coup, la loi tout entière... ciblerait la loi tout entière qui le concerne, en fait. La loi qui le concerne tout entière. Et qui est cette personne ? C'est un fils d'Israël à l'époque de Paul. Donc la loi tout entière qui concerne les fils d'Israël de génération en génération. Et puis si, par exemple, en plus d'être un fils d'Israël, c'est plus spécifiquement un fils de Lévi, eh bien, il y a ça en plus. si en plus c'est quelqu'un comme si, il y a ça en plus, etc. etc. Parce qu'à l'époque de l'église primitive, les 12 tribus étaient là. On peut le voir à plusieurs endroits des Écritures. Par exemple, quand Jacques dit aux 12 tribus dans la dispersion. Et même dans l'Acte des Apôtres, à mon souvenir, on peut voir la mention, enfin, ça, cette idée des 12 tribus encore présente à l'époque de l'église primitive. Par exemple, en Nombre 6-2, on peut voir que celui qui est Nazir, il doit faire certaines choses, il doit laisser pousser ses cheveux. Voilà. Donc, dans la loi, il y a des commandements pour les nazirs, en mode le nazir devra être comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Mais du coup, quand Paul il dit celui qui est circoncis doit garder toute la loi, il n'est pas en train de dire que celui qui est circoncis doit garder la loi du nazir, etc. Sauf si c'est un nazir. Mais, n'est-ce pas ? Mais on comprend que, qu'en fait, c'est quand il parle de garder toute la loi entière, il sous-entend la loi qui concerne. Celui qui est circoncis. Donc si c'est un homme, la loi concerne les hommes. Si c'est pas un nazir, la loi concerne ceux qui ne sont pas des nazirs, etc., etc. Si c'est un homme de la tribu de Lévi, eh bien la loi qui concerne la tribu de Lévi. Et si c'est un homme qui n'est pas de la tribu de Lévi, la loi concerne les Israélites qui ne sont pas de la tribu de Lévi, en fait.